Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Les béatitudes sont parmi les plus connues des paroles prononcées par Jésus. Mais que signifient-elles? Didier est de retour parmi nous pour nous aider à les comprendre. Actuellement, nous abordons la septième béatitude, que voici. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Ce texte se trouve dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, au verset 9. À présent, le moment est venu d'accueillir notre invité, Didier. Bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Nous réfléchissons donc à la question suivante. Comment le chrétien peut-il être un bâtisseur de paix? Comment peut-il favoriser la paix autour de lui? La dernière fois, nous avons surtout réfléchi de quelle manière, en ayant une attitude positive, nous pouvons favoriser la paix dans nos relations personnelles.
Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Je voudrais davantage parler de l'Église et de la façon dont elle peut bâtir ou favoriser la paix.
Et par où voulez-vous commencer?
En affirmant que l'Église doit être une communauté où des personnes d'origine très différente peuvent trouver la paix et vivre en paix. Dans nos sociétés, on peut rencontrer de l'hostilité, des divisions, être témoin de tensions entre des communautés différentes, dues aux différences raciales ou tribales, ou aux différences socio-économiques. On peut voir aussi certaines tensions entre, par exemple, des femmes et des hommes, les riches et les pauvres, les personnes âgées et les jeunes. Cependant, dans l'Église, nous sommes appelés à former une seule famille. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ, et nous devons travailler ensemble pour surmonter les différences, les préjugés et les sujets de tension et d'hostilité. Nous sommes appelés à vivre en paix, les uns avec les autres, quels que soient nos arrière-plans divers.
Et pouvez-vous citer des textes bibliques à ce sujet?
Oui, les toutes premières églises cherchaient des solutions pour promouvoir la paix, car elles étaient confrontées à de très grandes divisions. La plus grande de ces divisions était celle qui séparait les juifs des non-juifs. Dans les grandes villes, les tensions entre les habitants juifs et les populations grecques et romaines étaient assez fréquentes. Le juif, de par sa conviction d'être issu d'une race élue, adoptait souvent une attitude de supériorité et, par exemple, de peur de devenir impur, il refusait de s'attabler avec une personne non juive. Nous savons que Jésus-Christ est né juif et que, après sa mort et sa résurrection, les premiers chrétiens étaient d'origine juive. Mais, par la suite, parce qu'ils ont obéi à Dieu, ces chrétiens ont proclamé la bonne nouvelle de Jésus aux non-juifs. Et de ce fait, il y a eu un nombre croissant de Grecs et de Romains qui se sont convertis. Mais, face à l'hostilité grandissante entre juifs et non-juifs, les responsables chrétiens ont dû rapidement faire face à ces nouvelles difficultés.
Et quelles étaient leurs conclusions et leurs instructions?
En résumé, ils ont conclu d'abord que la bonne nouvelle de Jésus concernait tout homme, toute femme, quelle que soit son origine ethnique ou sociale. Ils ont conclu que, devant Dieu, le chrétien juif et le chrétien non-juif avaient exactement le même statut de dignité et de valeur, et qu'en Christ, il n'y avait pas de différence. Puis, à partir de ces conclusions, ils ont instruit les églises à travailler pour surmonter les disparités et les tensions, afin que tous s'acceptent mutuellement en tant que frères et sœurs, et cherchent à vivre en paix avec les frères et sœurs d'origine très diverses. Alors, tout à l'heure, vous m'avez demandé de citer des textes bibliques à ce sujet. Ils sont nombreux, mais je vais me limiter à la lettre que Paul a écrite à l'église d'Éphèse. Écoutons d'abord les versets 13 à 19 du chapitre 2.
Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car, grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père, par le même Esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu.
Le voyez-vous ? La bonne nouvelle de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu et elle nous accorde le privilège de vivre en paix avec lui. Or, cette même bonne nouvelle doit changer nos regards sur celles et ceux que nous considérions comme nos ennemis auparavant. Car Jésus est venu non seulement pour nous réconcilier avec Dieu le Père, mais aussi pour nous réconcilier les uns avec les autres. Du fait qu'une personne appartienne à Jésus, elle vit les mêmes privilèges auprès de Dieu que vous et moi, si nous appartenons à Jésus, car cette personne a reçu les mêmes bénédictions en Christ que vous et moi. Cette personne fait partie du même corps de Christ. Elle fait partie du même peuple de Dieu, constitué d'une multitude de membres venus d'une grande diversité de nations et de tribus. De très grandes divisions marquent nos sociétés. Elles peuvent être de nature raciale, tribale, politique, sociale, religieuse ou autre. Ces divisions créent des tensions, de l'hostilité et parfois de la violence. Elles peuvent avoir pour origine de très grandes injustices. Il n'empêche que dans l'Église, nous sommes appelés à surmonter ces difficultés pour vivre en paix les uns avec les autres. Nous sommes appelés à considérer ces personnes très différentes comme si elles étaient membres de notre propre famille, car elles sont effectivement devenues nos frères et nos sœurs.
Merci Didier. Il est très important de rappeler ces vérités. Comment voulez-vous conclure notre discussion ?
Écoutons un deuxième texte de l'apôtre Paul, tiré lui aussi de sa lettre aux Éphésiens. Il nous donne des conseils sur la manière de se comporter les uns envers les autres, à la lumière des vérités et de l'exhortation que je viens de rappeler. Écoutons Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 5.
Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous.
Grâce à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu a uni des personnes très différentes. Et Paul nous appelle à conserver cette unité. Comment ? En nous conduisant avec humilité et gentillesse, avec patience, avec amour, tout en pardonnant. Si nous recherchons l'humilité, nous ne nous considérerons plus supérieurs aux autres pour les juger. Au contraire, en nous revêtant d'humilité, nous respecterons les autres malgré leurs différences. Nous chercherons à les comprendre, à surmonter les préjugés et à vivre de véritables relations fraternelles avec eux. Parfois, les différences peuvent nous irriter et créer des malentendus ou des tensions. C'est pourquoi nous avons aussi besoin de patience, de douceur, et nous devons être rapides à pardonner au lieu de réagir de façon à entretenir des conflits. Oui, l'Église est appelée à être un havre de paix dans un monde où les conflits sévissent. Mais la responsabilité incombe à chacun de se comporter de façon à conserver et à favoriser cette paix.
Merci Didier pour ces exhortations importantes. Nous vous retrouverons lors de notre prochaine émission. À présent, Étienne est de retour parmi nous pour nous faire part d'une courte méditation biblique inspirée des écrits du prophète Ésaïe. Écoutons, avant de lui céder la parole, ce que le prophète déclare au verset 5 du chapitre 53 du livre qui porte son nom.
Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui.
Merci et bonjour à tous. Ces paroles sont extraites de l'un des chants du serviteur que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe. Mais qui est ce serviteur et qu'accomplira-t-il? Les chants du serviteur parlent d'un personnage que Dieu allait envoyer pour accomplir de très grands desseins en vue de notre rédemption, de notre salut. Ce serviteur allait obéir à Dieu et il se soumettrait à lui pour réaliser sa volonté. À travers ces chants, nous comprenons que le serviteur allait souffrir beaucoup et que c'est justement par ses souffrances qu'il accomplirait les desseins de Dieu. En lisant le Nouveau Testament, nous apprenons que le serviteur dont parle le prophète Ésaïe est Jésus-Christ lui-même. Les souffrances que Jésus a endurées de son arrestation jusqu'à sa mort sur la croix sont le reflet de ce que le prophète avait prédit quelques 600 ans auparavant dans le chapitre 53 de son livre. En effet, le prophète évoque non seulement les souffrances de ce serviteur, Jésus, mais il explique aussi la raison pour laquelle il allait souffrir, les événements qu'il a souffert et mourir sur la croix. Dans nos émissions actuelles, nous parlons de la paix. Or, le prophète affirme justement que nous pouvons connaître la paix avec Dieu parce que Jésus a enduré le châtiment sur la croix à notre place. Oui, Ésaïe le déclare, le serviteur de l'Éternel est innocent de tout crime et de tout péché, mais sur la croix, il a volontairement pris nos péchés sur lui et il a subi le châtiment de Dieu que nous méritions. Et puisque Jésus subit à notre place ce châtiment, nous n'avons plus à l'endurer nous-mêmes. Car grâce à ce sacrifice coûteux qui a réglé le problème de nos péchés, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu et vivre en paix avec lui. Quelle joie! Quel privilège! Oui, notre paix avec Dieu repose uniquement sur la mort de Jésus-Christ à la croix à notre place. Notre paix avec Dieu et notre relation avec lui sont les fruits merveilleux des souffrances de Jésus, son serviteur. Jésus est digne de notre louange, il est digne de notre confiance et de notre amour.
Merci Étienne pour ce rappel sur ces vérités importantes et enrichissantes. Chers amis, nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre nos réflexions sur la paix. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.